qu'on représente le point de vue de la création. Alors, je vous avais dit, première analogie que nous trouvons d'une façon classique, le point de vue du facere. Et on comprend très bien que c'est cette première analogie, c'est cette analogie du reste qui a été gardée tout le temps, que de fait on retrouve même dans cette affirmation du grand horloger, du grand architecte, tout ça. Non, Dieu est avant tout celui qui a façonné l'univers et l'a réalisé. Alors, je vous avais dit que ce facere réclamé, cette analogie du facere, donc de la causalité efficiente artistique, réclamé comme une purification très grande, puisque dans ce facere, il n'y a plus de devenir. Ce facere premier n'implique plus de devenir. Le devenir, c'est toujours la coopération de l'artiste avec la matière. Dès que vous devez coopérer avec une matière antérieure avec, à votre activité artistique, il y a nécessairement un devenir. C'est ça le propre du devenir. C'est qu'il y a quelque chose d'extérieur à l'artiste qu'on doit transformer. Et parce qu'il y a quelque chose d'extérieur à l'artiste qu'on doit transformer, il y a un devenir en fonction même de cette matière que je transforme. Si je suis en face du premier facere, il n'y a rien antérieur à ce facere. S'il n'y a rien antérieur à ce facere, il ne peut pas y avoir de coopération. Et c'est la première chose qu'on supprime hein, dans l'analogie. C'est la coopération de la matière et de l'artiste. Alors, ça va très loin. On ne peut pas coopérer avec l'acte créateur. On coopère avec Dieu à partir de son œuvre, mais pas avec l'acte créateur. Métaphysiquement, c'est impossible. Autrement, la causalité première, ce n'est pas la causalité première. Or, je suis parti de ce fait que Dieu était premier dans l'ordre de l'être. Donc s'il est premier dans l'ordre de l'être, il ne peut pas y avoir quelque chose qui est contemporain de Dieu. Il faut nécessairement que tout ce qui existe dépende de lui. Nous avions vu ça la dernière fois comme un des aspects premiers pour chercher ce que représente le point de vue de la création. Ce qui permet de dire tout de suite cette expression de la tradition religieuse. Créer, c'est faire quelque chose de rien, est vraiment le premier aspect de notre regard sur le Créateur. Et nous pouvons réintroduire en philosophie. Parce qu'on compare tout de suite le facere de l'homme au premier facere. Le facere de l'homme, c'est toujours réaliser quelque chose à partir d'une matière, même le fait. Le poète réalise son facere à partir de la parole de l'homme, à partir du langage. C'est un facere qui se sert comme matière du langage humain. Tandis que Dieu, c'est un facere ex nihilo, à partir de rien. Puisque c'est à partir de rien, c'est un facere qui n'implique pas de coopération. Dieu ne peut pas coopérer comme créateur. Le créateur comme tel, c'est la transcendance du facere divin. Ne souffre pas de coopération. C'est l'intransigeance de la création. L'intransigeance par surabondance d'amour. Hein. C'est un don. Tandis que vous ne pouvez pas dire que l'œuvre du facere est un don. Coopération, là c'est un don. Parce que l'œuvre du Créateur ne présuppose rien. Puisqu'il ne présuppose rien, il ne peut pas s'arrêter à la forme. Il ne peut s'arrêter qu'à l'être. L'acte créateur de Dieu est un acte qui nécessairement regarde le point de vue de l'être, puisqu'il est premier. Et donc, il touche ce qu'il y a de plus fondamental dans la réalité, son être, son exister. L'acte créateur de Dieu est un acte donc qui regarde le point de vue de l'exister comme tel. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu doit être dans l'œuvre, dans l'exister, quelque chose qui subsiste. Alors, est-ce que nous pouvons dire immédiatement ça? Est-ce que Dieu pourrait faire un exister qui ne subsiste pas? Mais c'est un nota bene intéressant à faire. Hein. Est-ce que Dieu pourrait faire comme créateur? Est-ce qu'il pourrait communiquer l'être sans que cet être subsiste? Ça me semble impossible au point de vue métaphysique. L'être de Dieu, l'effet de la création, doit être nécessairement un essai qui subsiste. Curieux comme conséquence. Donc c'est ou le tout de l'univers ou la communication d'un être vivant et en dernier lieu l'homme. Autrement dit, ce serait très intéressant au point de vue proprement métaphysique, n'est-ce pas ? Nous essayons de comprendre l'analogie du fat shame. Très intéressant au point de vue métaphysique de savoir si Dieu, comme créateur, peut créer un univers physique sans vie et sans l'homme. Puisque le facere divin, le premier facere, regarde nécessairement l'exister. Ça me semble impossible autrement que devenir comme tel et rayé. C'est un facere sans devenir, puisqu'il n'y a pas de matière. Donc c'est un facere qui regarde l'exister, qui ne regarde pas le devenir. Dieu comme créateur, ne regarde pas le devenir. C'est très très important aujourd'hui pour évacuer du problème de la création tout problème de l'évolution. L'évolution est dans le devenir, ça c'est impossible autrement. L'évolution appuie toujours à devenir. Vous ne pouvez pas parler d'évolution sans devenir. Or, l'acte du facere divin est au-delà de tout devenir, puisqu'il est en dehors de la matière, en dehors d'une matière présupposée. Donc, il ne regarde que l'exister. Vous voyez, c'est important parce que vous savez bien, aujourd'hui, les théologiens qui ne sont pas assez métaphysiciens, n'est-ce pas, les théologiens disent qu'il ne faut plus parler du problème de la création à cause de l'évolution. Alors il faut montrer tout de suite avec une netteté très grande que le problème de la création n'a rien à voir avec le problème de l'évolution. L'évolution, ce sera tout simplement se demander comment cet exister peut durer. C'est la durée de cet exister. Or, la durée présuppose d'exister. Et la création regarde exister. La durée, c'est le problème du gouvernement divin. C'est pas le problème de la création. C'est comment cet exister de fait dure. Alors là, on peut dire, il dure en se développant, en progressant, et ainsi de suite. Mais en fond, c'est le premier problème, c'est de voir l'exister. Alors le problème métaphysique qui se pose ici, l'exister, quand il est premier, il subsiste. Ça me semble impossible autrement. Un exister qui est un effet de Dieu, qui n'est pas Dieu, puisqu'il est un effet de Dieu, il est créé, cet exister subsiste. Peut être un accident. C'est un accident de Dieu. Donc ici, c'est possible autrement. Parce que ce qui nous a n'a pas vu. Voilà, c'est très d'accord de Dieu. Parce que Spinoza n'a pas compris que de fait, ce qui nous a ramené à la substance de Dieu. Nous sommes des petites modalités de Dieu. Et nous existons comme petites modalités. on a été Dieu. Donc nous existons comme des petits accidents de Dieu. Nous sommes les yeux de Dieu, nous sommes la bouche de Dieu, nous sommes l'oreille de Dieu. Nous existons en fonction de l'existence de Dieu, tandis que nous ne disons pas du tout. Si Dieu crée, la création n'est plus qu'un effet. Un effet qui est extrinsèque à Dieu. Exister. Être en dehors de la cause. Vous voyez, ça donnerait le sens très profond de exister au point de vue scolastique, devant lesquels il n'est pas exister. C'est exister, être en dehors de Dieu, en dehors de la cause. On existe en dehors de ce premier pas de chéré du Créateur. Et cet exister nécessairement subsiste. Impossible autrement. Il subsiste en lui-même. Il faut bien. Autrement, il s'appuierait sur Dieu. Et donc, il ne serait pas un effet de Dieu. Il ne serait pas extrinsèque à Dieu. Et donc, il n'existerait pas parfaitement. Pour exister, il faut subsister. Alors, il faut se poser la question, se subsister du monde physique implique un tout. Le monde physique ne peut exister que comme un tout. Il ne peut subsister que comme un tout. Pas subsister autrement. Je ne peux pas séparer une partie de l'univers en disant qu'il subsiste en lui-même. Se subsister, donc, ne peut exister que comme un tout. Il subsiste dans la vie, le vivant a un tout. Et le vivant est une personne même. À tout. Donc, au fond, Dieu peut réaliser son facere selon trois modalités. Le tout de l'univers, les vivants et la personne humaine. Examinez les trois. De facto, c'est le tout de l'univers. Alors, il pourrait évidemment s'arrêter au tout de l'univers. Mais un tout de l'univers sans la vie, aurait-il encore un sens? Et la vie sans l'esprit aurait-elle encore un sens? Dans la lumière de la création. Ah, c'est autre chose. Hein. Les anges, c'est très simple, c'est tout de suite la personne. Donc le problème ne se pose pas. Le problème se pose à partir de nous. Et bien, philosophiquement, du reste, les anges, je ne sais rien. Et pour les anges, c'est très simple, parce que la personne humaine a sa propre, la personne angélique a sa propre finalité. Que Dieu crée des esprits, ça va. Mais que Dieu crée la matière, plus difficile. Oui. Alors, est-ce que le Créateur, dans son facere, qui est ex nihilo, qui est à partir de rien, et ce ex nihilo pourrait s'arrêter au tout purement physique? Est-ce que ce serait convenable à l'acte créateur de créer un tout uniquement physique? Ce n'est pas contradictoire. Un univers physique peut exister. Ce n'est pas contradictoire. Mais ce n'est pas selon la sagesse. Ah. Alors ça, c'est l'autre élément qui va intervenir. Ce ne serait pas convenable à la sagesse de Dieu. Si Dieu crée un univers physique, c'est pour permettre la communication de la vie. Et s'il communique la vie, c'est pour permettre la personne humaine. Vous voyez ? Je retrouve un ordre d'évolution, mais pas du tout une évolution immanente. C'est un ordre d'évolution au niveau de la sagesse de Dieu. Et ça, c'est quand même très important de le comprendre. Parce que ça explique comment si facilement on peut tout expliquer par l'évolution. Il y a quelque chose de juste. C'est très vrai que l'univers physique n'a pas de sens sans la vie, de sens plénier, et que la vie n'a pas de sens plénier sans l'homme. D'où facilement le problème de l'évolution. Mais je dis ça, moi, en fonction de la sagesse de Dieu. C'est que ce facere est un facere premier qui n'est pas le facere d'un artiste, qui est le facere d'un contemplatif. Dieu crée en contemplatif. Alors je dois donc tout de suite comprendre que ce facere divin, c'est le facere de la sagesse, et donc du contemplatif. Dieu comme créateur, c'est la surabondance de sa contemplation. Et donc, la sagesse est présente dans ce facere. Alors, je corrige là, vous voyez, c'est la seconde correction que je fais par rapport au facere. La première correction, expliquez-vous. La seconde correction, par rapport à Platon, c'est que le créateur, quand il crée, ne regarde pas un modèle qu'aux exemplaires. Vous savez, le démiurge qui regarde un modèle, qui regarde la perfection. Non. Ça, c'est très important. Dieu, comme créateur, se contemple. Et c'est en se contemplant qu'il peut communiquer l'être selon un ordre de sagesse. Et donc, Dieu ne contemple pas des idées au sens absolu, c'est lui-même qui se contemple. Alors, est-ce que je peux parler du problème des idées de Dieu au niveau purement philosophique ? Non, c'est que Dieu se contemple. Et ça me semble très important de comprendre ça, vous voyez, c'est le passage du Timée, hein, vous savez, où on dit que le démiurge contemple le bien, le monde le plus parfait, qu'il peut réaliser qu'un monde parfait. Parce que justement, on donne un modèle. Tandis qu'en Dieu, il n'y a pas de modèle, c'est lui-même. Donc, dès qu'il crée, quelque chose qui est infiniment inférieur à lui. Par le fait même, il y a toute une marge. Quand j'ai dans le cul, il crée du plus et du moins. Et donc l'univers qu'il fait, il est plus ou moins parfait. Parce qu'il n'est jamais adéquat à Dieu lui-même. C'est Dieu qui se contemple. Et la contemplation de Dieu, c'est la bonté en soi. C'est la bonté suprême. Bien comparativement à cette bonté suprême, l'univers, la vie et l'homme seront toujours quelque chose de très inférieur. Et donc, il ne crée pas ce qui est nécessairement plus parfait. Il crée en fonction de sa contemplation. Et donc, ça fait comprendre la liberté souveraine. C'est là où on découvre la liberté souveraine du créateur. Il a une liberté bien plus grande que l'artiste, parce que l'artiste se donne un modèle. Il a une idée. Tandis que Dieu n'a pas d'idée. Nous transposons ensuite l'idée en Dieu. Mais c'est métaphorique. Au sens strict. Parce que c'est Dieu qui se contemple en créant. Alors, on comprend comment on a transposé en Dieu les idées, c'est toute la question des idées. Je ne parle pas en théologie, là. Saint Thomas parle des idées de Dieu en théologie, hein, en fonction de Dieu. On comprend purement philosophique. Pouvons-nous parler, c'est une très belle question aussi, vous voyez, des nota bene intéressants à regarder avec attention. Pouvons-nous, au niveau purement métaphysique, parler du Dieu créateur qui, en se créant, contemple les idées. Pouvons-nous parler des idées de Dieu ? Des idées du créateur. C'est-à-dire, essayer de comprendre que dans cette contemplation, il y a des idées divines. Ce que saint Thomas traite longuement. On voit du purement métaphysique. Ou est-ce que c'est purement une analogie métaphorique ? Comparativement à l'artiste qui a des idées et qui contemple ses idées pour orienter son œuvre, il a un petit projet en lui connaît, il nous, il crée. Or Dieu, comme modèle, qu'est-ce qu'il a ? Lui-même. Il y a tous les possibles en Dieu. C'est possible. C'est Dieu lui-même. C'est pas quelque chose qui s'ajoute à Dieu. Alors, est-ce que appliquer à Dieu les idées, est-ce une analogie métaphore ? Posez-vous la question. Au plan purement métaphysique. C'est intéressant à se poser. Je ne sais pas si comme un truc ça. Est-ce que l'idée, si on la transpose en Dieu, est-ce que ce n'est pas métaphorique en ce sens ? Est-ce que ce n'est pas transposer en Dieu quelque chose qui est nécessaire pour l'artiste pour lier la connaissance spéculative, la connaissance intellectuelle, à la connaissance sensible. Parce que l'idée n'est qu'inspiration. Et l'inspiration se trouve dans l'imaginaire. Et l'idée, c'est bien le lien, parce que l'idée est symbolique, hein, toute idée est symbolique, ça ne peut pas être autrement. L'idée de l'artiste est symbolique. Et donc c'est toujours le lien entre la représentation et la signification. C'est le lien entre le monde visible et le monde invisible. L'idée fait ce lien. Puisque c'est à partir de l'imagination que naissent les idées poétiques, artistiques. Alors, quand je transpose l'idée en Dieu, est-ce que de fait, c'est une analogie propre? Ou est-ce que c'est une analogie métaphorique ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Il faut se poser la question. C'est important, parce que je peux le dire, mais si on dit métaphoriquement, ça n'avance rien. La métaphore ne vous donne aucune intelligibilité, ça permet simplement d'employer des mots qui sont très, très, très intéressants, mais ça n'ajoute rien au point de vue d'intelligibilité. C'est ce que je crains. Ce que je crains. Le mot idée appliquée à Dieu n'ajoute rien. Vraiment, Dieu qui se contemple, et en se contemplant, voit toutes les possibilités de communication, et qu'il choisit librement ce qu'il veut réaliser. Alors on dira après coup, ce sont ses idées, après coup, et pas directement. Et c'est dans ce sens-là que c'est métaphorique, parce que c'est après coup. C'est une analogie seconde. Donc elle n'ajoute rien pour nous l'intelligibilité, ça simplement, c'est vrai, Dieu agit comme un artiste, ça n'a pas une idée. Mais pour comprendre très bien, Dieu n'agit pas du tout comme un artiste, alors il y a le ex nihilo au point de départ, et alors il y a l'heure aussi. Dieu agit sans idée. Est-ce que je dois dire ça ? Je dis, il agit ex nihilo, donc sans matière. Et il agit sans idée, parce qu'il agit en se contemplant. En Dieu, le Créateur et Dieu ne font qu'un. Tandis que dans l'homme, l'artiste et l'homme font deux. C'est très bien. C'est pour ça qu'on est quelquefois tellement déçu de découvrir l'homme derrière l'artiste. On a aimé l'artiste à son œuvre et puis il veut découvrir l'homme en vrai. Pire, comme il est moindre que l'artiste. C'est une chute catastrophique parce que j'ai aimé son œuvre, c'était admirable, c'était génial. L'artiste, l'homme que je découvre derrière l'artiste, bon bourgeois. Un bon bourgeois. Mais l'artiste, il est génial. Alors est-ce que pour Dieu je fais ça ? Dieu est un artiste merveilleux. Dire la même chose, c'est impossible. En Dieu, l'artiste et Dieu font qu'un parce que Dieu crée en se contemplant. Donc il crée sans idée. C'est lui qui est tout. C'est merveilleux ça. Vous voyez la seconde négation de la transcendance par rapport au fatuéré. Parce que le fatuéré humain est toujours une causalité exemplaire. Et alors, c'est ça qui est très intéressant, la causalité exemplaire, est-ce qu'elle ajoute quelque chose ? Saint Thomas l'emploie, je sais très bien, mais est-ce qu'au point de vue purement métaphysique, je peux l'employer ? dire, il est en face d'une tradition néoplatonicienne. Et parce qu'il est en face d'une tradition néoplatonicienne, le théologien doit être attentif à ça. Le trépied de saint Thomas,
je lui ai dédié. Saint Thomas s'appuie sur Aristote, saint Thomas s'appuie sur Augustin, saint Thomas s'appuie sur Denis. Or, Denis parle des idées, donc il faut les appliquer. Alors, est-ce que c'est du néoplatonisme, vous voyez, introduit dans une tradition pour que, de fait, nous comprenions mieux le point de vue de la sagesse de Dieu, ou est-ce que c'est déjà une exigence métaphysique? Pas si quand même que ça à répondre.
Et c'est l'ordre de la causalité exemplaire. Je serais assez partisan de dire qu'il y a une seconde négation que Dieu crée sans idée. Alors ça, ce serait très beau, vous voyez, parce que ça ferait comprendre la nostalgie de tout artiste qui, dans son œuvre d'art, veut s'exprimer. C'est la grande nostalgie de l'art moderne. La grande nostalgie de l'art moderne, c'est que tout artiste, en réalisant une œuvre, veut s'exprimer en supprimant l'idée. Parce que l'idée, c'est toujours un peu la nature, hein. C'est toujours un peu le sujet. Or, on voudrait uniquement dans une œuvre d'art s'exprimer. Alors, est-ce que c'est pas le privilège de Dieu? Dieu, en créant, s'exprime. C'est lui. Ce qui n'est que lui. Donc, il s'exprime. Le petit oiseau que Dieu a créé exprime Dieu de façon très très lointaine. Le petit enfant exprime Dieu. Le vieillard exprime Dieu. C'est Dieu qui s'exprime à travers tout ça. Et c'est vrai. Vous voyez, il dit c'est une idée de Dieu. Dieu a l'idée de cheval en soi. Alors il s'est mis à créer un cheval. Mais d'où vient le cheval en soi? Comment Dieu a-t-il eu le cheval en soi? Est-ce que ce n'est pas tout simplement moi qui le transpose à Dieu? Est-ce que Dieu, en se contemplant, a compris toutes les possibilités qu'il avait de se communiquer? C'est tout, je ne peux pas dire autre chose. Et que chaque fois que Dieu réalise quelque chose, il s'exprime, il se dit à travers la création. Il faut se poser le problème. Hein. Je ne vais pas plus loin que de dire ça. Donc, vous voyez comment, dans la causalité exemplaire, il y a le point de vue de l'ordre de la sagesse. Et dans l'ordre de la sagesse, justement, tout doit exprimer Dieu. Or, un univers purement physique, un univers purement vivant, exprime-t-il assez Dieu? Ou est-ce que tout l'univers physique, tout le monde des vivants, c'est pour que Dieu s'exprime dans la personne humaine. Philosophiquement parlant, c'est ça qui serait intéressant à voir. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas créé tous les... Vous voyez, on rejoindrait là et on donnerait... J'allais dire, c'est la seule manière de répondre à l'évolution. De voir ce qui est juste et en même temps ce qui est faux. Et de comprendre alors la grande vision des anciens, des pères de l'Église, en voyant que l'homme est nécessairement le centre de la création. Que tout l'univers physique est pour l'homme. Tout le monde des vivants est pour l'homme. Parce que l'homme est celui que Dieu a créé d'une façon unique, puisque c'est l'homme qui exprime Dieu. Par l'esprit. Et que l'homme est capable, parce qu'il est artiste, de continuer, d'achever l'œuvre que Dieu a réalisée comme créateur. Et Dieu a voulu que le monde physique, que le monde des animaux soit imparfait pour que l'homme puisse l'achever. Partiellement. C'est difficile d'achever les galaxies. Difficile. C'est difficile d'achever les animaux, parce qu'on sait très bien qu'en voulant mettre notre marque là-dessus, on fait des petits monstres. Mais l'homme peut essayer
nous rendre notre univers plus parfait. Dieu a voulu cette imperfection. Alors, vous voyez, ça donne. C'est quand même très important de voir si métaphysiquement je dois arriver à dire ça. Je crois que je dois le dire. Autrement, je ne vous le dirai pas. Je crois que je dois dire ça. Mais c'est très délicat. Hein. Je crois que je dois dire ça. Que tout le monde physique, tout le monde des vivants, c'est pour l'homme. Parce que l'homme est la seule créature qui exprime vraiment le Créateur. Je verrai là, vous voyez, le fondement métaphysique, le preambula fidei des pères de l'Église qui reprennent la parole de la Genèse en disant que l'homme est créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu et sa ressemblance. Ça veut dire que seul l'homme exprime le Créateur. Que seul l'homme peut exprimer ce qu'il y a de plus profond dans le Dieu créateur. Le Dieu créateur veut s'exprimer dans la création. Or, il ne s'exprime que dans l'homme, parce qu'il ne peut s'exprimer que dans l'esprit. Or, l'homme, c'est l'esprit lié à la matière. Alors, je peux me poser la question là, pourquoi Dieu a-t-il voulu que l'esprit s'est lié à la matière ? Et ça, c'est toujours pour essayer de comprendre que c'est une œuvre de sagesse de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il voulu unir la matière et l'esprit ? Puisqu'il crée à partir de rien. Donc la matière est purement gratuite. C'est une œuvre de pure gratuité d'avoir créé la matière. Si c'est une œuvre de pure gratuité, c'est donc une œuvre qui dépend directement de la sagesse de Dieu. Et donc qui est finalisée par la sagesse de Dieu. Pourquoi Dieu ? Il n'y a plus de nécessité là, hein ? Pour le philosophe, la matière est cause errante et est cause de nécessité par sa limite. Mais pour le créateur, quand je regarde dans la vision de la création et de sagesse, la matière est une pure gratuité. Une gratuité monstrueuse, mais c'est une gratuité. C'est une pure gratuité d'avoir créé la matière. C'est une gratuité extraordinaire, une super gratuité. Pourquoi Dieu a-t-il voulu unir l'esprit et la matière ? Puisqu'au fond, toute la signification de notre monde physique, c'est ça. Pour communiquer la fécondité. Je crois que c'est la première raison qu'on doit donner. C'est pour la fécondité de la vie. Et deuxièmement, c'est pour que cette fécondité qui implique l'éducation, qui implique le fait de coopérer avec Dieu au point de vue éducation. Et alors, second point de vue, c'est que la création, alors ça, seul le chrétien peut le dire, la création de l'homme et de la femme ont toujours impliqué une création avec la grâce. C'est pour que la grâce soit plus communiquée. Et alors on aurait là à saisir la signification profonde d'une capacité plus grande à recevoir la grâce grâce à la matière. Je crois que c'est les deux raisons qu'on peut donner au point de vue philosophique, hein. Troisième raison, elle est chrétienne, c'est le mystère de la... Vous voyez, mais au fond, philosophiquement, je crois que c'est les deux raisons que je peux donner. Le point de vue de la fécondité et le point de vue de la grâce. Une grâce qualitative, plus profonde. Vous voyez, dans les anges, le point de vue de la grâce est communiqué nécessairement en conformité avec leur esprit. Tandis que la grâce, pour l'homme, ne peut pas être communiquée en conformité avec son esprit. En conformité avec ce qu'il est. Donc l'union de l'âme et du corps. Alors, passons maintenant à cette seconde analogie que nous avions commencé la dernière fois, Je voulais revenir là-dessus pour compléter un peu ce que nous avions vu sur le fait de chérir. Le point de vue de la procréation. Les deux grandes causalités que je constate dans la vie humaine, c'est le fait de chérir et la procréation. Le fait de chérir, c'est que l'homme est capable de transformer la matière, il transforme l'univers. Donc s'il transforme l'univers, il le fait, il coopère avec l'univers, et puis il communique la vie. Il est père. Père humain. Communication de vie. Je comprends très bien que j'y viens, puisque nous avons vu comment l'esprit est lié à la matière pour qu'il y ait cette coopération, pour qu'il puisse y avoir cette émanation. Alors, c'est ce que les philosophes appelleront l'émanation. L'émanation, la créature émane de Dieu. Elle provient de Dieu. C'est ce que les néoplatoniciens ont dit. Intéressant à voir, là je m'appuie sur une certaine tradition philosophique, les néoplatoniciens ont dit, quand il s'agit de regarder le point de vue du créateur, il faut toujours regarder le point de vue du facere, c'est-à-dire l'artiste, et le père. Et le père, c'est la communication de la vie. Alors, est-ce que je peux employer cette seconde analogie pour expliquer ce que c'est que la création ? Employés, les néoplatoniciens propulsent le textuellement. Dieu est père parce qu'il communique la vie. Comment employer cette seconde analogie ? Alors, c'est là où je crois qu'il faut bien comprendre que c'est vraiment l'analogie du facere qui est première et fondamentale. Il y a une seconde analogie que je peux prendre. Du fait même que Dieu réalise un univers dans lequel il y a la vie, je peux, par rapport à la communication de la vie, me servir de cette seconde analogie. Mais je ne peux pas, par rapport au Créateur qui crée un univers physique, me servir de cette analogie. Je m'explique pour que vous compreniez mieux. Quand il s'agit de la communication de la vie, vous savez ce que Maître Eckhart dit. Dieu ne crée pas la vie. Il communique la vie. Je crois que philosophiquement, c'est vrai. Dieu crée des êtres, et parmi ces êtres, il en crée certains qui seront plus parfaits que les autres et qui seront des vivants. Si je regarde attentivement l'écriture, je vois bien que c'est ce qui se passe dans un langage symbolique. Dieu façonne le corps de l'homme, il insuffla un souffle de vie et il deviendra un vivant. Donc il n'a pas créé le vivant comme tel. Il a créé un être parfait qui est vivant, auquel il communique la vie. Ça paraît quelque chose de curieux de faire cette distinction, et pourtant je crois que c'est très important. Alors, au point de vue de la communication de la vie, je peux dire qu'il y a quelque chose d'analogue avec le point de vue de la procréation. Pourquoi ? Parce que vraiment, Dieu communique la vie à travers sa création de l'être. Évidemment, pour Dieu, ce n'est pas deux actes distincts, puisque toute la création est pour la communication de la vie. Mais la communication de la vie présuppose, métaphysiquement, donc je ne dis pas présuppose au sens d'une séparation, au sens d'une distinction, présuppose cette dépendance radicale dans l'ordre de l'être, du créateur à l'égard de la créature. Il communique la vie. Là, je peux dire qu'il y a quelque chose d'analogue. Dieu est vraiment père, en ce sens qu'il communique la vie. Il communique la vie, évidemment, d'une façon absolument libre, puisque c'est lui-même qui communique la vie en communiquant
même de la création.
Quand Dieu crée une âme spirituelle, c'est vraiment à partir de rien. Tandis que quand il communique la vie, c'est à partir d'un être existant. Tandis que lorsqu'il s'agit de l'âme spirituelle, c'est vraiment à partir de rien. Et c'est pour ça qu'il y a création. Alors c'est très curieux que l'esprit est lié à l'être, alors que le vivant est lié au devenir. Toute la vie biologique est liée au devenir. Et c'est pour ça que ce n'est pas lié directement au créateur. Et c'est pour ça que là, il peut y avoir évolution, ça ne gêne pas du tout, parce que c'est lié au devenir. Tandis que les deux points qui sont liés à l'être, c'est vraiment Dieu qui fait un monde physique à partir de rien, et Dieu qui crée l'âme spirituelle à partir de rien. Oui, comme c'est curieux. Et que tout le problème du vivant est quelque chose d'autre. Ce n'est plus l'analogie directe du point de vue de la création. C'est la communication de vie. Alors, faut-il pas creuser de ce côté-là? Parce qu'on ne l'a pas fait, ça. Hein, on ne l'a pas fait. Et pourtant, je crois que c'est très important. J'ai de montrer comment, avec le point de vue de l'être, vous retrouvez le point de vue, avec le point de vue de l'esprit, vous retrouvez le point de vue de l'exister. Le point de vue de l'être. Et donc ça fait appel directement à l'action créatrice de Dieu. Que Dieu crée un monde physique ou que Dieu crée l'âme spirituelle, des deux côtés, c'est ex nihilo. La seule différence, c'est que quand il crée l'âme spirituelle, il présuppose autre création. Puisque de fait, l'âme spirituelle est créée dans l'homme. Du moins, est créée dans la matière. Là où il faut essayer de réfléchir. C'est intéressant parce que ça nous aide à comprendre comment l'analogie première et fondamentale, c'est bien de Fatshuret. La seconde analogie, c'est d'une certaine manière le point de vue de la procréation, mais que lorsqu'il s'agit de l'âme spirituelle, je reviens à Fatshuret.